Les colloques du Collège de France.
On va entendre Alexia Yates, professeure de l'histoire du 19e siècle à European University, spécialiste de l'histoire économique et auteur de Selling Paris, Property and Commercial Culture in the Fin de Siècle Capital. C'est un beau livre qui raconte la reconstruction de Paris après la Commune. Actuellement, Alexia travaille sur l'histoire sociale de la finance française du 19e siècle en mettant l'emphase sur les perceptions financières. Et son travail sur Haïti explore la manière dont l'emprunt haïtien contribue à institutionnaliser les principes juridiques et politiques. Je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Je me sens très honorée d'être parmi vous aujourd'hui, d'être parmi vous hier et encore demain. J'ai déjà tant appris, alors je ne vais pas tarder de commencer parce que je sais que n'ont pas beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'emprunt haïtien. Cet emprunt de 30 millions de francs, contracté pour la première fois en 1825, puis multiplié et renouvelé 50 ans plus tard, en 1875. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse à la manière dont les individus dits « ordinaires » se sont engagés dans cette démarche d'investissement en adoptant une approche « bottom-up » de l'histoire des marchés financiers, j'entends porter un nouveau regard sur les parties qui ont participé à ces emprunts et qui les ont maintenus à travers les générations, afin de multiplier les modalités selon lesquelles ils prennent de l'importance. En tant que transaction économique, bien sûr, mais aussi, c'est difficile, hein? Je dois juste me mettre devant les micros, juste comme ça. Je ne vais pas tourner la tête. C'est pas bon. Alors, en tant que transaction économique, bien sûr, certes, mais aussi en tant que phénomènes sociaux et affaires politiques qui ont contribué à l'élaboration d'institutions influentes et d'arguments soutenant les systèmes d'investissement international inégaux. L'emprunt est un exemple des mécanismes financiers utilisés par la France dans le cadre de son modèle d'impérium du 19e siècle. À l'instar, excusez-moi, de l'historienne ou de théoriste Anne Laura Stoller, nous pourrions considérer cette dette comme l'un des nombreux processus impériaux dont la durée sature le substrat ou le sous-sol de la vie des gens. En m'intéressant à l'emprunt, ce n'est qu'une partie de ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà entendu, cette double dette. Je souhaite explorer un type de relation financière distincte de celle de l'indemnité. En partant de l'hypothèse qu'en plus d'être un acte de calcul d'investissement, l'investissement et la spéculation sont des activités à forte charge éthique. Cela s'explique par le fait qu'il repose sur l'affect des avenirs imaginés et des attentes fictives, aussi bien que rationnelles. C'est dans ce cadre que je pose la question des diverses significations et implications de l'investissement de cette veuve Lalo en Haïti. Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur le fait de devenir un sujet financier dans la France du 19e siècle? C'est pas la tête de BlackRock? Mais quand même, le veuve Lalo, à la fin du 19e siècle, était quelqu'un qui a donné son argent à Haïti. Alors aujourd'hui, c'est comme Mathilde dans sa présentation, je n'évoquerai que brièvement le lancement de l'emprunte. Et dans la majeure partie de mes commentaires, je suis la biographie des obligations en examinant comment les détenteurs d'obligations se sont mobilisés autour de l'emprunt, les types de pratiques et d'arguments que l'emprunt a rendu possible parmi les membres de cette tranche particulière de ce qui était en train de devenir une classe d'investisseurs. Comment ils ont cherché, à travers le lobbying, à aligner les intérêts publics et privés sous la forme d'un État investisseur. Et comment cet alignement a été remis en question par la résistance haïtienne. Pour conclure, je suggère que ce cas et cette approche nous ouvre un point de vue important sur la façon dont des ensembles durables d'attentes et de normes ont été composés et renforcés autour de l'extraction impériale. Alors, comme nous tous, je crois, ce que je vais dialoguer dans cette recherche, ce sont toutes les façons dont cette dette était extraordinaire et définissait une époque, avec toutes les façons dont elle était ordinaire, toutes les façons dont elle pénétrait et structurait les normes, les routines, les espaces et les pratiques de tous les jours, les façons dont elle, dans tout cela, devienne une routine, façon des normes, comme j'ai dit, ça participe au pouvoir de la dette. Et je suggère que l'emprunt a joué un rôle important dans la normalisation de la dette haïtienne dans son ensemble. Et nous avons un bon exemple ici de cette ambivalence dans les guides d'investissement de Pierre-Joseph Proudhon, qui est un théoricien bien connu des coopératives et de l'anarchisme, mais écrivant ici dans son guide de spéculation en 1854. D'une part, là à gauche, l'emprunt haïtien n'est qu'une des nombreuses dettes souveraines proposées aux investisseurs. Mais d'autre part, à droite, elle fait l'objet d'un commentaire qui explique son historique de remboursement irrégulier, en reconnaissant l'indignité évidente d'une telle dette. On note également une modification particulière apportée par Proudhon entre les éditions de 1854 et 57. En 1800, c'est juste pour vous donner des détails, je crois que tous ces détails sont bien connus, mais pour avoir quelque chose à regarder. En 1825, Haïti est contrainte d'emprunter 30 millions de francs sur le marché français pour honorer la première des 5 annuités nécessaires au paiement de l'indemnité de 150 millions de francs imposée comme condition de l'ordonnance. On estime que 2 à 3 000 capitalistes français ont acheté des obligations leur donnant droit à des paiements d'intérêts biannuels et provenant des revenus nationaux d'Haïti. Nous pouvons nous faire peut-être une idée de la manière dont ces individus ont pu évaluer leur investissement en explorant dans un premier temps les conditions de son émission. Et je vais partir de cette, juste pour vous donner quelques petits détails techniques. D'un certain point de vue, l'emprunt haïtien, on a entendu Ariel Alterwit parler ce matin de ça, il fut perçu comme un prêt parmi tant d'autres. Alors que le marché des titres latino-américains était en pleine effervescence et rapidement aussi en pleine phase d'érosion. L'industriel Louis-Guillaume Ternot, dont la banque familière servait d'intermédiaire pour cet emprunt, rédigea une brochure promotionnelle affirmant que les paiements annuels requis par Haïti n'étaient non seulement bien dans ses capacités, mais que le développement futur du pays, alimenté par un esprit d'entreprise riche en idées, une fois la menace d'invasion militaire française écartée, rendrait cet emprunt et les autres qui vont suivre faciles à rembourser. Cette brochure de Ternot portait l'inscription « Se vend au profit des Grecs », alignant en zile le projet haïtien avec les luttes indépendantistes de l'époque. Elle était adressée à la duque de la Rochefoucauld-Léoncourt, avec qui Ternot travaillait à la Société de la morale chrétienne, qui était une source importante d'activisme anti-esclavagiste au début du 19e siècle. Alors, ces associations montrent que l'emprunt était en fait plutôt moins qu'ordinaire. Dans le premier volume du journal Saint-Simonien, à l'époque, le producteur, un long article loue l'emprunt comme, sans contredit, c'est une citation, sans contredit, le fait le plus capable de caractériser l'époque actuelle et d'éclaircir notre avenir social, achevant la réconciliation de la race noire et la race blanche. C'est un exemple typique du discours libéral en faveur de l'entreprise, et il expliquait que cet emprunt admettrait Haïti à l'Association générale des peuples industriels, où elle pourrait partager, je cite encore, partager avec ses anciens maîtres les avantages du crédit public, ce puissant instrument de production dont la création atteste le haut degré de civilisation des peuples modernes. Contrairement à la plupart des pays impliqués dans cette première bulle de la dette, Haïti occupait une place importante dans l'imaginaire économique français. De puissantes traditions bâties sur l'abondance et la fertilité, cette paire des Antilles dont on a parlé hier, on peut agir fortement sur l'esprit de ceux qui ont investi. Elles ont en tout cas alimenté des accusations amères contre le gouvernement haïtien lorsqu'il s'est avéré un débiteur récalcitrant. Mais le principal argument de vente de l'empreinte était toujours son lien avec l'indemnité et les anciens colons. Le pamphlet de Ternaux souligne le caractère résolument privé et apolitique de cet emprunt, tout en l'identifiant comme une bombe financière ayant pour mission de cicatriser, comme vous pouvez le voir là, cicatriser les plaies encore douloureuses, à restituer les fortunes enveloppées dans les naufrages du temps. Et je trouve, c'est juste, j'ai créé ce diapositif ce matin. C'est juste pour vous donner. Ce qui me frappe, c'est ce pivot de temporalité dans le discours où je l'apprends. On a à la fois, c'est dirigé vers le passé, mais aussi c'est pour créer cet avenir. Et on a une position très diamétralement en fait, opposée de Frédéric Marcellin plus tard dans le siècle, et qui le voit plutôt comme. Une pause temporelle, en fait, qui a vraiment fait une dérive dans le développement d'Haïti. En contournant le pays lui-même, l'emprunt va contribuer pour la plupart dans l'idée des investisseurs, va faire une contribution qui devait être institutionnelle et symbolique. Et apporter la sécurité à la position politique d'Haïti, où découlerait la productivité et la croissance. Dans les premiers investisseurs disposaient certainement de bonnes ressources financières et de nombreuses relations, même s'ils se présentaient dans les pamphlets comme des petits capitalistes qui, et je cite, se trouvent aujourd'hui privés de moyens de subvenir aux premiers besoins de la vie. Mais ce public prêteur a évolué au fur et à mesure que le titre perdait de sa valeur et devenait plus accessible au plus grand nombre. Par exemple, cette perte de valeur a probablement permis celui qui est à droite sur l'écran, un Jean-Pierre Vaure, parfois appelé le Baron Vaure, de souscrire à l'emprunt et de gagner en influence. En effet, ce négociant français de Port-au-Prince s'est immiscé dans le processus de négociation d'un accord sur l'emprunt dans les années 1830 et est devenu, dans la seconde moitié des années 1840, un des plus grands porteurs d'obligations et une des organisateurs d'obligataires les plus actifs. Selon une grosse pétition lancée par ses soins auprès du ministère des Affaires étrangères en 1852, garnie des signatures de plus de 500 porteurs d'obligations, la masse d'obligataires était composée à la fois des membres de la haute banque, comme Pileville, ou aussi on peut retrouver le futur ministre haïtien des Finances, Charles Laforesterie, et de très petits porteurs. 63 des signataires à cette pétition, qui sont autrement inconnus, ne possédaient qu'une seule action, qu'une seule obligation. Néanmoins, ils se sont présentés pour signer cette lettre visant à protéger leur modeste investissement. Il est difficile d'analyser les troupes de discours pétitionnaires pour entrevoir le véritable statut socio-économique des détenteurs d'obligations. Mais il est vrai que les membres les plus actifs, à part de ce Baron Vaure, étaient d'anciens banquiers et courtiers. Même un ancien militaire et un pétitionnaire assidu, nommé Laurent, qui expliquait que sans le revenu général par ses obligations haïtiennes, il ne pourrait pas quitter l'hôtel des Invalides dans son adresse précise, corridor de Toulon, chambre 42, et je cite, où l'on gèle de foie sans bois ni feu dans les chambres. Même ce Laurent révèle que ses économies qu'elle avait immobilisées pour cette opération s'élevaient à la somme impressionnante de 20 000 francs. Le type d'accord concerné, un contrat avec un souverain étranger à l'abri de toute juridiction étrangère, exigeait que les détenteurs d'obligations mécontents du comportement d'Haïti devaient s'organiser pour chercher des recours politiques. La plupart des sources utilisées pour cette conférence proviennent du ministère des Affaires étrangères français, l'un des organismes qui était chargé non seulement d'administrer l'indemnité, mais aussi d'approuver les missions d'emprunt étrangers sur les marchés français. Les associations de porteurs d'obligations ont joué un rôle actif dans les règlements de 1838 et 1848 en obtenant l'aide des agents diplomatiques français dans les deux cas et en réussissant à ajouter des conditions spécifiques de remboursement de l'emprunt dans les nouveaux accords relatifs à l'indemnité. Et ce processus de mobilisation n'était pas facile. Et je n'ai pas sympathie pour ces obligataires, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas automatique, ça prend du travail. Le processus n'a pas été facile, ou sur le plan politique, ou sur le plan organisationnel. Le point de vue standard du gouvernement de France et de Grande-Bretagne, ce sont les deux plus importantes nations exportatrices de capitaux en cette période, était que les affaires privées des capitalistes internationaux n'étaient que cela, privées, sans conséquences nécessaires ou politiques pour le gouvernement. Pour faire valoir leurs revendications auprès du gouvernement, les détenteurs d'obligations se sont donc accrochés à la notion d'une dette unie. Je trouve que c'est important, que c'est vraiment une dette unie, ce n'est pas une double dette, c'est une dette jumelée, c'est intéressant. C'est un moyen d'affecter l'unification et la politisation, en fait la nationalisation des créanciers d'Haïti, colons et détenteurs d'obligations. Les premiers pamphlets pouvaient insister, comme j'ai dit, Ternon a insisté, sur la séparation de la dette des affaires publiques et en particulier du gouvernement, mais assez rapidement, les arguments ultérieurs ont penché en faveur de cette position. Comme le résume simplement un détenteur d'obligations au milieu du siècle, je cite, « Sans l'indemnité, l'emprunt n'aurait pas été contracté. » Sans l'emprunt, l'ordonnance n'aurait pas reçu un commencement d'exécution. Ce raisonnement démontre que tout se lie et se coordonne pour établir une connexité parfaite dans les deux dettes. On aurait beau torturer la langue française, les deux dettes d'Haïti n'en font qu'une. Le contexte n'est pas seulement celui d'une juridiction ambivalente, mais aussi une concurrence entre les différents groupes de créanciers pour accéder aux rares ressources haïtiennes. Dans un exemple frappant de collision d'identité, entre collision de position entre les investisseurs et les indemnisés, au moins sur papier, le comité de détenteurs reconnu, dirigé par Jean-Pierre Vore, a rédigé un appel au ministre des Affaires étrangères en 1851 en tant que colon liquidé, demandant la libération des fonds d'indemnisation de la banque du gouvernement de Caisse des dépôts et consignations. Alors, j'ai juste mis les deux pétitions côté à côté pour voir que ce sont les mêmes gens qui se disent à la fois indemnitaires et obligataires. Ils ne sont pas indemnitaires. Seuls et en groupe organisé, les détenteurs d'obligations ont continué pendant des décennies à envoyer des lettres et des pétitions aux membres du gouvernement pour réaffirmer leurs droits en tant que créanciers, leur perception du comportement d'Haïti et leur point de vue sur les responsabilités de l'État français. Et je crois que la durée de cette histoire mérite d'être signalée. Pour certains des porteurs d'obligations, comme Laurent mentionné ci-dessus, la mobilisation autour de cette question a pris des décennies de leur vie. La défense, leur cause demandait de s'organiser, de rencontrer d'autres détenteurs d'obligations, de publier des tracts, de poursuivre en justice les banquiers et les agents français en vue d'obtenir une restitution. Il s'agissait d'un processus d'affirmation de soi, de se joindre de façon collective à des processus et des objectifs plus larges, voire même d'affirmation des droits des individus ordinaires comme des petits bourgeois, on peut voir dans cette lettre, à la participation politique. Les investisseurs se ressemblaient publiquement lors des réunions à la bourse, dans les salles de réunion louées. Ils se réunissaient en privé pour discuter des paiements, des pétitions émises depuis le domicile de Jean-Pierre Vaure. Les espaces semi-publics, des résidences diplomatiques en vue de l'intervention des familles, des représentants haïtiennes, femmes et enfants, pour calmer les discussions houleuses lorsque les porteurs d'obligations s'adressaient directement à leurs débiteurs. Les controverses et désaccords, mais aussi la maladie et la mort, faisaient que les groupes se divisaient, et se réalignaient au fil du temps, au fur et à mesure que les stratégies et les loyautés étaient mises en question. Ces pratiques de mobilisation incarnées ou corporelles, spatialisées, émotionnelles, contribuaient à former un sens commun qui se développait dans les pays riches en capitaux dans la première moitié du 19e siècle autour des conditions et l'objectif de la finance internationale et de la dette publique. Les détenteurs d'obligations haïtiennes s'inséraient dans une classe transnationale de capitalistes dont les intérêts justifiaient le soutien de l'État et intégraient dans leurs demandes des références aux interventions anglaises, aux françaises, au Maroc, en Grèce, à Tahiti, au Portugal, à Tripoli. Ils associaient une sorte de finalité politique et civilisatrice à la dette publique elle-même. Et on peut vraiment imaginer que les enjeux de cette inclusion dans un monde civilisé étaient particulièrement importants pour une ancienne colonie exclue pour des raisons raciales et politiques de cette communauté internationale des nations dites civilisées. Comme l'a souligné un groupe de porteurs d'obligations dans une lettre adressée directement aux envoyés d'Haïti dans les années 1840, l'humanité et la souveraineté noire étaient menacées si leur pays ne parvenait pas à égaler et surpasser les Blancs dans son engagement à respecter l'institution distinctive de l'Europe, le contrat. Selon ses auteurs, cet échec plongeait le créancier et le débiteur dans un état de nature. Je cite, « Un créancier malheureux et souffrant est forcé de ne pas laisser dormir tranquille son débiteur. Des besoins journaliers l'obligent à la harceler sans cesse et s'il le laisse en repos, il est à craindre qu'un jour, il montre enfin le désespoir qui le ronge et que le résultat de ce désespoir ne soit terrible. Une acceptation de votre proposition de sursis m'effraierait pour l'avenir de votre indépendance. » Et en effet, l'intensité des critiques et de l'amertume dirigées vers l'État haïtien par ses créanciers était certainement liée à ce qu'ils considéraient comme un renversement de pouvoir postcolonial pervers et se distinguait des mobilisations autour d'autres prêts étrangers contemporains tels que les dettes espagnoles, les dettes portugaises. Ils se distinguaient par leur demande à la fois de plus de gratitude et de plus de mesures coercitive, violente. En 1854, cette quête de paiement, de patronage, de porteurs a obtenu gain de cause. Les diplomates et un détachement naval ont été déployés en Haïti pour parvenir à un nouvel accord sur les obligations du pays en matière de l'emprunt. Ils sont repartis avec 60 000 livres sterling destinés au remboursement des créanciers. Et je cite un article de presse, « Après avoir salué le pavillon haïtien de 21 coups de canon. » À partir de décembre, un nouvel accord soumettait l'emprunt à la responsabilité de l'État français à même titre que l'indemnité. Qu'est-ce que des dépôts et consignations ? Institution financière de l'État qui avait soutenu l'emprunt d'une manière plutôt informelle dès sa naissance et devenu son intermédiaire officiel à partir de 1856. Ces mesures répondaient aux aspirations des investisseurs depuis le début de l'opération en termes de garantie. L'un des principaux membres du comité des obligataires haïtien, Antoine Guiton, a rédigé en 1856 un manuel d'investissement. On peut le voir ici sur l'écran. Il est écrit sous le pseudonyme de Mary Clay. Et il parle de l'intervention armée et ce nouvel appareil administratif qui occupe une place centrale dans l'argumentaire de vente des obligations. Les subventions publiques garantissaient les bénéfices à titre privé. Les prix après ça sont restés sains pendant les dernières années de l'emprunt. Les tirages annuels ont contribué à rembourser les obligations à leur pleine valeur nominale, avec une toute petite interruption, pour atteindre le remboursement complet dans les années 1880. C'est par le biais de ces institutions financières essentielles, banques d'État, manuels d'investissement populaire, comités de porteurs d'obligations actifs de longue date, que l'emprunt haïtien est devenu partie intégrante de l'infrastructure financière de la France et de son quotidien financier. Ici, du point de vue des souscripteurs que je l'expose ici, il est possible qu'une histoire de l'emprunt de 1825 comporte un début, un milieu et une fin, avec des protagonistes porteurs qui luttent contre l'adversité jusqu'à leur justification finale. En fait, on sait tous dans cette chambre que cette chronologie précise est insaisissable, mais le succès des investisseurs ne l'est pas. Dans les années 1870, les intérêts financiers haïtiens et français ont réactivé avec empressement la dette extérieure d'Haïti. Le règlement du prêt initial s'est fait par le biais d'autres emprunts qui ont prorogé, révitalisé, plutôt qu'abrogé, la dette extérieure du pays. La reconstitution de cette dette nous donne aussi une nouvelle occasion d'évaluer sa signification et moyen de façonner le monde financier français. Je vais juste faire deux séries d'observations sur ces emprunts et puis je vais terminer. Alors, je ne vais pas parler, mais j'ai mis les détails là des emprunts de 1875. Ils promettent d'unifier la dette haïtienne, de réaliser un ambitieux programme de travaux publics, les garanties par les recettes douanières dont le recouvrement était assuré par un fonctionnaire français posté sur place. Puis, à la suite d'un violent changement de gouvernement, les emprunts connus sous le nom de emprunts d'Oumingue, le nom du président qui en était responsable, ont failli être répudiés. Et le remboursement final a nécessité de nouvelles années de négociations. Et comme j'ai dit, je voudrais faire juste deux séries d'obligations. Je les grouperai sous les rubriques accumulation et attente. Je vais sauter. Je ne vais pas parler de commercialisation, mais vous pouvez poser les questions après. Les images sont très importantes. En parlant d'accumulation, je parle de temps, du temps comme accumulation. Les emprunts comme des vecteurs qui garantissent que les événements, les relations, les artefacts intérieurs ne sont pas terminés, mais qu'ils s'accumulent à travers le temps. Les nouveaux prêts se sont développés à partir des premiers, c'est évident. Ils ont mobilisé en y l'histoire et la mémoire des relations financières franco-haïtiennes. Les documents promotionnels, j'ai là, c'est une page de prospectus d'un de ces emprunts. Les documents promotionnels indiquaient clairement que les nouveaux fonds étaient destinés en premier lieu à rembourser la dette liée à l'indépendance. On retrouve ici une imitation du premier emprunt lorsqu'on demande aux souscripteurs de rembourser les créanciers français, encore une fois, et de faire table rase du passé. Les promoteurs de cette nouvelle opportunité d'investissement parlaient en termes d'héritage et de relations familiales. Un journaliste s'est enthousiasmé en disant que, je cite, « tout esprit d'hostilité a disparu d'un côté en même temps que de l'autre, toute arrière-pensée de domination. Il ne reste plus entre Saint-Domingue et nous, Saint-Domingue, que le souvenir d'une ancienne communauté de destinataires. » Si la France n'est plus dans l'acceptation autoritaire du mot « la mère patrie », elle est considérée du moins comme la grande sœur. Le prospectus de la Banque de Crédit Général, réactiver les notions de fertilité naturelle et d'abondance agricole d'Haïti en la figeant dans son mythe du XVIIIe siècle. Et même les critiques de l'emprunt étaient attentifs à la façon dont les tactiques ressuscitaient un spectre qui rappelait Haïti à son statut pré-révolutionnaire. Le malheureux état d'Haïti, écrivait un journaliste critique, vit encore de la réputation de notre ancienne colonie de Saint-Domingue. Ou on peut aussi avoir des commentaires plus violents comme ça. L'histoire est compliquée, comme on a dit. Avec le renversement violent du gouvernement haïtien en 1876, qui pourrait être considéré comme une rébellion contre la dette promise mais non nationalisée en 1825, les investisseurs se sont retrouvés une fois de plus à devoir défendre leur capital, organiser de nouveau en association. Une autre accumulation remarquable se révèle, un noyau important d'investisseurs récurrents. Alors, ils ont investi pour la première fois, ils sont devenus des lobbyistes professionnels pour la dette, et puis ils ont réinvesti. Et ces continuités se perpétuent également vers l'avenir, puisque certains les plus gros souscripteurs de l'emprunt de 1875 deviendront actionnaires de la Banque nationale d'Haïti. On va parler plus de ça après. Ça, c'est un investisseur qui s'appelle Eugène Vautier. Il était lobbyiste pour l'emprunt de 1875. On le voit aussi là dans le registre des actionnaires de la Banque nationale d'Haïti. Et puis, il apparaît aussi dans les archives de l'Association nationale des porteurs des fonds, des porteurs français des valeurs mobilières étrangères. C'est comme le Council of Foreign Bondholders, c'est un groupe de lobbying international pour le capital français. Alors, on peut retrouver ces types de continuités qui sont tous au cours de cette dette haïtienne. Je ne veux pas arrêter sans parler de cette résistance haïtienne pour conclure. Les emprunts contractés par Haïti en 1875 nous offrent aussi un épisode de contestation féroce d'un régime d'investissement international étroitement organisé autour de la protection des investisseurs, la protection d'un droit de propriété qui est connu aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la propriété, sous le nom d'attente légitime d'un investisseur. Lorsque le gouvernement haïtien a suspendu les paiements relatifs aux emprunts, il a également convoqué une commission parlementaire pour analyser leur validité et recommander les ajustements. Même en proclamant son respect pour les principes de droit international, la Commission a proposé une compréhension radicalement différente des obligations contractuelles des prêts internationaux en donnant la priorité à l'équité et la réciprocité dans les accords entre créanciers et débiteurs, séparant les entreprises légitimes des capitalistes étrangers de celles poursuivies, et vous pouvez le lire, mais je vais juste dire, dans un but de lucre immodéré et sans le moindre souci des intérêts du pays qui l'accueille, la Commission invalide les emprunts de 1875 au motif qu'ils ne protègent ni ne pourvoient aux besoins locaux. L'examen haïtien des emprunts a donc inséré le peuple haïtien de l'autre côté des intérêts du capital français dans cette équation de prêts étrangers. C'est comme la discussion ce matin, pourrions-nous oublier un seul instant, Edmond Paul dans cette commission a écrit, que c'est le peuple qui paie, en fin de compte, les folies de ses gouvernants. Le 11 juillet 1877, Haïti a reconnu à nouveau les emprunts Domingue, mais on a réduit le remboursement pour qu'il corresponde au montant réellement perçu par le pays, calculé à environ 240 98, fonds par obligation, au lieu d'une valeur nominale de 500 francs. Ce règlement annonçait la perspective d'un régime de prêts internationaux organisé autour de contrats qui garantissaient des avantages pour les emprunteurs aussi rigoureusement que les profits pour les prêteurs. Et vous pouvez imaginer, c'est un spectacle effrayant pour les créanciers. Et on peut discuter de ça après. Je vais juste dire en conclusion. Les fonds haïtiens constituaient l'un des tout premiers emprunts étrangers sur le marché français. Du point de vue français, les montants en jeu dans ce transfert de capitaux étaient relativement faibles. Pourtant, une déclaration de l'économiste haïtien Frédéric Marcellin concernant l'impact de cette dette en Haïti, il a écrit « Le mal que cette montante nous a fait est hors de proportion avec leur valeur intrinsèque ». Je crois que ce type de commentaire est également instructif pour la France, d'une manière moins calculable que les pourcentages du PIB. L'emprunt a façonné les dispositions et les institutions des classes exportatrices de capitaux en France. C'est à partir de l'histoire sociale de cet emprunt, dans le contexte français, que nous pouvons discerner les façons dont la dette étrangère peut former ses participants à des modes d'argumentation et de compréhension, ainsi qu'à des formes d'engagement politique qui constituaient et reflétait l'empire financier informel de la France au XIXe siècle. La particularité des emprunts haïtiens place également le racisme et la violence impériale au cours des dispositions de domination et des demandes d'intervention d'État qui ont caractérisé la mobilisation autour de l'investissement international. Certes, tous les investisseurs n'ont pas consacré une grande attention à ces titres particuliers. Mais comme les obligations d'États étrangers renforçaient le contrôle des États riches en capital sur les États pauvres en capital, un contrôle qui pouvait être renforcé par le recours à la violence étatique et la colonisation formelle, elle contribuait également à donner un sens immédiat de l'importance des hiérarchies mondiales pour les chances de vie des individus ordinaires et former leurs propriétaires à des manières d'envisager des États débiteurs et leurs citoyens qui soutenaient l'extraction impériale. Merci. Je sais que c'est la pause.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.